Bonsoir, comment allez-vous? Ceux qui ne sont pas du quartier l'ont certainement vu aux informations télévisées. Des migrants s'étaient installés porte de la Chapelle à Paris. En voyant ça, des familles du voisinage se sont organisées. Des jeunes filles d'abord, des lycéennes, des étudiantes, sont allées faire d'énormes courses en banlieue. Elles ont sollicité le camion du père, de l'oncle, du cousin. Ensuite, les mères, les tantes, les grands-mères ont été réquisitionnées pour fabriquer des sandwichs à la chaîne. Puis les gamines redescendaient distribuer ces repas dans la rue, avec une énergie incroyable. Cette entraide sauvage, pratiquée par des familles algériennes pour la plupart, avec leurs propres deniers, a créé pendant un temps, dans cet univers de misère, une bonne ambiance. Des dialogues se sont installés. Et une fois, un homme d'un certain âge a demandé une faveur à une gamine. Il n'osait pas, car ceux qui reçoivent remercient mais ne réclament pas. Ce soir-là, il s'est lancé et il a réclamé. Dans un sabir franco-arabo-anglo-gestuel, il a réclamé une pomme. « Une pomme ?» a dit la petite. « Mais une pomme comment ? Jaune, rouge, verte ?» Il ne savait pas, il n'avait jamais vu de pomme.
« Je m'appelle Clio, j'ai 11 ans et j'aimerais savoir combien y a-t-il de sortes de pommes en tout. Merci et au revoir. »
Bonsoir Clio. Justement, Sylvie Brunel, qui est écrivain et géographe, professeur à la Sorbonne, où tu iras peut-être, une université prestigieuse à Paris. Sylvie Brunel est spécialiste des questions de sécurité alimentaire et de développement durable. Alors Clio s'interroge sur le nombre de sortes de pommes en tout, dit-elle, Sylvie Brunel.
Alors Clio, il y a des milliers de variétés de pommes dans le monde. Des pommes de toutes les couleurs et même des pommes qui ont des formes très différentes. Des pommes rouges, des pommes vertes, mais on les distingue entre les pommes à dessert, qu'on appelle aussi les pommes à couteau ou les pommes à croquer, et les pommes cidre. Les pommes cidre dont on va faire évidemment cette boisson alcoolisée, considérée avant comme très bonne pour la santé, qui est le cidre. En France, on cultive environ 500 variétés de pommes, donc c'est encore un fruit qui a une très grande diversité, mais juste un tout petit nombre de pommes sont commercialisées dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'une pomme, ça doit pouvoir résister au transport, résister à la conservation, résister aussi à la manipulation dans les supermarchés, parce que souvent, on n'est pas très respectueux avec la pomme. Alors les principales pommes qui sont consommées, c'est la Gala, la Golden, la Red Delicious, la Granny Smith et puis la Pink Lady.
Ce qui nous fait 5 à peu près, c'est ça ?
5 pommes qui monopolisent le marché, mais quand vous êtes dans des petits marchés, quand vous êtes dans des lieux où il y a encore des producteurs traditionnels, il y a en France des centaines de variétés de pommes. Pensez par exemple à la Reine des Rainettes, qui est une pomme qui existe depuis le XVIe siècle et qui a été revitalisée aujourd'hui. Elle demande un soin absolument considérable sous le nom de Reine des Rainettes Gourmandes.
Reine des Rainettes Gourmandes, parce que les pommes, vous nous l'avez bien expliqué, Sylvie Brunel, la pomme la plus résistante qu'on trouve, disons, dans les supermarchés, c'est pas forcément la meilleure.
Alors ça dépend. Par exemple, la Golden, vous savez, cette pomme jaune, pour certains, c'est le symbole de l'agriculture industrielle, alors qu'en réalité, une des meilleures pommes en France, c'est la Golden du Limousin. C'est la seule qui a ce qu'on appelle l'appellation d'origine protégée. On l'appelle la pomme d'or.
Sylvie Brunel a écrit « Croquer la pomme », histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera. C'est édité chez Lattès. L'astrophysicien André Braek est mort le 15 mai 2016 à Paris et c'était un habitué des petits bateaux.
Je m'appelle Juliette, j'ai 4 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi la grande ours s'appelle la grande ours alors qu'elle a une forme de casserole. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi la grande ours se nomme-t-elle grande ours alors qu'elle a une forme de casserole. Au revoir.
Maya et Juliette, c'est vraiment la même question, André Braek. Alors, l'histoire des noms et des formes et du rapport entre le nom et la forme.
Alors Juliette et Maya, elles ont raison et elles font la bonne remarque. Pourquoi on donne ce nom-là ? Parce que, dans l'Antiquité, les hommes ont eu tendance à placer des dieux dans le ciel, à inventer des mythologies, à inventer des histoires. Et donc, ils ont parlé du dragon, du chien, du peintre, et chacune des constellations du ciel porte le nom de la mythologie correspondante. Mais dans le monde occidental, nous appelons la Grande Ourse, cette constellation qui est bien connue, que l'on voit facilement, relativement près de l'étoile polaire. Mais en Chine, par exemple, la Grande Ourse s'appelle la casserole. Et dans, et dans les différentes civilisations, qu'elles soient océaniennes, africaines, etc., des différentes tribus, des différents peuples, etc., chaque peuple a donné des noms différents. Nous, dans le monde occidental, et puis maintenant, c'était adapté sur la Terre entière, en gros, on utilise des noms grecs, latin et arabe. C'est ceci qui a été pris. On n'utilise pas les noms chinois, par exemple. Et c'est issu de la mythologie, et des histoires et des légendes d'il y a 2000 ans. Alors nous savons bien que ces légendes ne sont que des histoires. C'est pas des histoires vraies. Mais c'est une manière de rendre un petit peu hommage aux cultures de la Terre. On a commencé par imaginer des choses. On sait que ça ne marche pas. On a voulu mettre des dieux dans le ciel. On sait que dans le ciel, il y a autre chose. Et bien simplement, on rend hommage à nos ancêtres qui ont fait les premiers pas, qui nous permettent aujourd'hui de comprendre ce qui se passe. C'est une manière de ne pas dire il y a nous, il n'y avait rien avant, mais c'est une manière de rendre hommage à nos ancêtres, même s'ils se trompaient à l'époque. Mais c'est parce qu'ils se sont trompés que nous avons réussi à avancer.
André Braik, cette grande ours, enfin que nous appelons nous ici en France grande ours, parce que vous venez de nous dire que ça ne s'appelle pas dans le monde entier de la même façon, elle ne va pas toujours garder cet aspect des quatre comme ça, étoiles,
bien entendu,
puis après la queue.
C'est comme quand on se promène dans une forêt. Eh bien, dans une forêt, on voit des arbres, on voit des rochers, on voit des paysages, et les arbres, les rochers sont alignés de différentes manières. Et donc la Terre qui se promène autour du Soleil, le Soleil lui-même qui se promène autour du centre de la galaxie, fait, et les étoiles de la Grande Ourse ne sont pas au même endroit, elles ne sont pas à la même distance, c'est un effet de perspective simplement. Et donc simplement si on attend 10 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, et bien cette Grande Ourse qu'on voit comme une casserole aura une forme complètement différente. Dans le passé, elle avait une forme différente, mais aujourd'hui, en se déplaçant, c'est un peu comme vous êtes dans une rue, vous voyez une voiture, vous dites « Ah tiens, la voiture est devant le magasin !» Mais trois secondes après, la voiture, elle est dans un autre magasin. Simplement, les mouvements, nous, qui sont à des vitesses importante puisque on se déplace à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde, mais sur des distances qui sont de dizaines, de centaines, quand c'est pas de milliers d'années-lumière, fait qu'il faut du temps pour voir que ça bouge. Et comme l'homme vit très peu de temps, la durée d'un homme, c'est rien par rapport aux échelles de temps astronomiques de l'univers. Nous avons le sentiment que tout est immobile, mais il faut bien comprendre quand dans l'univers tout bouge, ça change sans arrêt, et si nous vivions longtemps, nous aurions le sentiment que le ciel, c'est un endroit bouillonnant, changeant, que c'est tous les soirs le 14 juillet, alors que nous avons le sentiment, une nuit d'été, quand on regarde un beau ciel, que c'est immuable et serein, c'est tout à fait illusoire. On pourrait comparer cela à une course cycliste ou un match de football. Quand on prend une photographie, le cycliste et le footballeur, ils sont immobiles, alors qu'en fait, ils sont en train de courir à toute vitesse. Eh bien, on voit un instantané. Eh bien, ce que nous voyons du ciel, c'est un instantané dans un monde qui change sans cesse.
C'est toujours émouvant d'entendre l'astrophysicien André Braik. On lui doit la co-découverte des anneaux de Neptune. Il a également fait partie de l'équipe d'imagerie de la sonde Cassini. Et à propos de la sonde Cassini, vous savez que Mathieu Vidard, notre Mathieu Vidard de France Inter, présente désormais sur France 5 une émission qui s'appelle Science Grand Format le mardi soir. Et mardi dernier, cette émission a été consacrée justement à la mission Cassini. Vous pouvez revoir cette émission pendant encore 2 jours.
Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu, que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu, que j'aime sous leurs bonnets oranges, tous les visages d'anges des enfants du Pirée.
Les enfants du Pirée, c'était Dominique A. Vous avez déjà entendu cette chanson quelque part. Jamais le dimanche, a dit Eliane. C'est un film de Jules Dassin, a dit Marjorie. Et c'était chanté par Mélina Mercouri, a dit Elisabeth. Ah, les équipes de filles, ça marche bien. Moi, je récolte les informations.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe. Des enfants téléphonent au 01 56 40 43 57 et des spécialistes répondent.
Bonjour, je m'appelle Rose, j'ai 9 ans et je voudrais savoir comment marchent les virus informatiques et pourquoi on les appelle comme ça. Merci.
Que ça fait peur. Merci Rose pour cette question sur les virus informatiques. Et d'où vient leur nom? Jérémy Zimmermann, cofondateur d'une organisation citoyenne qui s'appelle la Quadrature du Net.
C'est vrai ça. Pourquoi on les appelle des virus, Rose? C'est une très bonne question. Peut-être qu'on les appelle comme ça parce qu'ils existent, ils se propagent et ils se répliquent un petit peu à la façon des virus biologiques, c'est-à-dire à l'insu de leur hôte. Vous êtes un corps humain et il y a un virus de la grippe qui entre, vous ne savez pas qu'il est entré.
C'est vrai.
Il y en a un et puis il se réplique. Puis il y en a 10, 1000, 1 million, 1 milliard et
on est
là,
malade.
On commence à avoir de la fièvre et il faut qu'on passe 3 jours au lit. Donc c'est un petit peu pareil avec le virus informatique. Vous n'avez pas conscience qu'il entre dans votre système. Il ne va pas nécessairement se multiplier avant d'être actif, mais il va s'activer à votre insu. Et on peut parler plus généralement d'un logiciel malveillant. En anglais, il y a un terme qui s'appelle malware, qui désigne cela. Et donc, c'est un logiciel malveillant qui va être diffusé dans le réseau, soit de façon complètement générique, en l'envoyant comme une bouteille à la mer, en se disant « il y a bien quelqu'un qui va l'attraper », soit de façon ciblée, où là, on parle plutôt de cheval de Troie, où c'est quand on veut cibler une personne en particulier, quelqu'un dans une entreprise, dans une administration publique, un adversaire politique ou je ne sais quoi, que l'on va là essayer de faire quelque chose sur mesure pour pénétrer dans son ordinateur et éventuellement récupérer des données, faire sortir des données de son ordinateur ou de son réseau. Voilà, donc ça marche en fait un petit peu comme tous les logiciels. Donc ça marche en étant programmé, puis en étant copié, puis en s'exécutant dans un ordinateur. Mais de façon un petit peu particulière, ça marche très souvent en exploitant des trous de sécurité, des failles de sécurité. Lorsque les fabricants de logiciels ne font pas très attention à ce qu'ils font, qu'ils se dépêchent de sortir leur logiciel parce que le service marketing leur a dit que c'est demain que ça doit sortir, lorsqu'ils font autre chose que du logiciel libre, dans lequel tout le monde peut contrôler, peut vérifier ce qui se passe dans le logiciel. Bref, lorsqu'il sort des logiciels fermés, très souvent, il y a dedans des bugs, des failles qui peuvent être utilisées de façon malveillante pour propager des virus et pour créer des problèmes de sécurité.
Dorothée Barba, qui présente la chronique télévision sur France Inter entre 7h moins le quart et 7h le matin, quand elle se fait tomber une enclume sur le pied, elle dit « ça perlipopette, c'est sidérant !» parce qu'elle est très jeune.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 11 ans. Et avec mon petit frère Quentin, nous voudrions savoir pourquoi et comment certains mots sont devenus des gros mots. Merci.
Bonjour, je m'appelle Mathis. J'ai 7 ans et demi et j'aimerais savoir pourquoi on a inventé des gros mots si on n'a pas le droit de les dire.
Pourquoi et comment certains mots sont devenus des gros mots et pourquoi on a inventé les gros mots si on n'a pas le droit de le dire? Logique, mon cher Mathis, nous avons proposé vos questions à un professeur des sciences du langage à l'université de Limoges, Isabelle Cloque-Fontanille. Cette histoire de gros mots alors qu'on n'a pas le droit de dire effectivement.
Alors, les gros mots, les jurons, les injures, les insultes, on n'a pas le droit de les dire, mais c'est sans doute la chose du monde la mieux partagée. Hein. Et il n'y a sans doute personne, quel que soit le milieu, la culture, le pouvoir, qui n'ait pas un jour dit des gros mots. Alors, dans les dictionnaires, hein, on dit un gros mot, il est cru, il est incorrect, il est grossier, il est indélicat, etc. Voilà, c'est ce qu'on lit. En fait, les gros mots concernent trois domaines. La religion, dont je vais parler, le sexe, par exemple
bitcoin, couille,
par exemple, et tout ce qui touche à ce qu'on va appeler d'un mot un peu savant, la fonction excrémentielle.
Merde.
Voilà, c'est le plus courant. Alors qu'est-ce qu'un gros mot ? Finalement, c'est une parole qu'on laisse échapper sous la pression d'un sentiment brusque et violent. Alors la fureur, l'impatience, la déconvenue. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on dit un gros mot, on ne cherche pas à communiquer quelque chose. On cherche juste à exprimer quelque chose. Et on n'attend pas de réponse de la personne qu'on a en face de soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une parole qui a un sens. Hein, c'est pas « aïe ». Aïe, ce n'est pas un gros mot. Voilà. Et on peut noter également que le juron ou le gros mot n'est pas particulier à une situation particulière. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le même gros mot, quelle que soit la situation.
Ah oui, effectivement, je me pince les doigts dans la porte ou quelqu'un me fait un queue de poisson en voiture, je peux lâcher le même gros mot.
Absolument. En fait, c'est une réaction. Hein, c'est une réaction à quelque chose. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, plutôt que de dire des généralités et des gros mots à l'antenne, je vais choisir le domaine de la religion. Alors, d'où viennent les gros mots et les jurons ? En fait, ce dont on a besoin, c'est de violer un tabou qui est celui de prononcer le nom de Dieu. Il y a des mots qui ne doivent pas passer par la bouche.
Hein. On n'a pas le droit de les dire.
On n'a pas le droit de les dire. Mais en même temps, ça doit continuer. On les prononce parce que ça doit continuer à fonctionner comme interdit. C'est quand même ça l'intérêt.
Comme Voldemort dans Harry Potter.
Exactement comme Voldemort dans Harry Potter. Et c'est vrai que l'interdit du nom de Dieu, c'est quelque chose qui est ancré en tout un chacun, hein, parce qu'on blasphème très volontiers le nom de Dieu, qu'on soit croyant, qu'on soit athée, mais c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Alors la formule de base, c'est nom de Dieu, hein, c'est l'expression même de l'interdit. Et puis on peut insister en disant sacré nom de Dieu. Il y a des variantes, donc on peut redoubler, bon Dieu de bon Dieu. Aussi, on peut utiliser le diable, l'anti-dieu, diable.
Ce diable d'homme.
Ce diable d'homme. Mais cette exclamation va susciter un interdit, une censure. C'est-à-dire à la fois, on le dit, mais il faut pas le dire. Mais en même temps, il faut qu'on le comprenne pour que ça fonctionne. Donc c'est très compliqué, ce principe. Alors comment on fait ? Eh bien, on va remplacer Dieu par un terme innocent. Nom d'une pipe, nom d'un petit bonhomme.
Sacrebleu.
Alors, sacrebleu, c'est encore plus compliqué. Sacrebleu, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va mutiler le nom de Dieu. Donc, sacré nom de Dieu va devenir sacre bleu.
Ça sonne de la même façon, mais c'est pas le même mot.
Mais on le reconnaît quand même. Et en même temps, on ne le dit pas.
Hey!
Futuropolo, c'était Hans sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Qu'est-ce que nous regardons tous en ce moment, comme dans la blague de Coluche, qu'est-ce que tout le monde regarde dans les bureaux, la pendule, et bien en ce moment dans nos maisons, nous regardons la météo.
Bonjour, je m'appelle Elisa, et je voudrais savoir comment les messieurs ou les dames de la météo savent quel temps il va faire. Merci, au revoir.
Bonsoir Elisa, nous avons demandé à un monsieur de la météo, Emmanuel Beaucry, qui est directeur de l'unité média de Météo France, qui est donc météorologiste. Comment faites-vous ?
Alors bonsoir Elisa, alors, on va te révéler nos secrets. On utilise des équations de la météo. Alors c'est des opérations très compliquées. Il y a 6 équations à 6 inconnues et on ne sait pas les résoudre. Mais par contre, on a des très gros ordinateurs qui nous permettent de faire des gros calculs avec ces équations. Alors pour donner une idée, notre gros calculateur actuellement, lui, tourne relativement vite. Il fait 1 milliard d'opérations en une seconde. Là,
comment
il vient de faire 1 milliard d'opérations.
Vous êtes des grands matheux à la météo.
On est des grands matheux. Et pour faire une prévision à 24 heures, donc prévoir le temps qu'il va faire demain, il va falloir 1 heure de temps de calcul.
Mais qu'est-ce que vous calculez ?
Alors, qu'est-ce qu'on calcule ? Alors d'abord, on va utiliser ce qu'on appelle de l'observation, c'est-à-dire que la Terre, on l'observe en permanence. Alors, il y a des météorologistes qui sont dehors, qui regardent le temps qu'il fait, on a des instruments qui mesurent, on a des satellites qui mesurent par le dessus, on a des radars qui regardent où il pleut, on a beaucoup d'instruments. Ça nous permet de voir l'état de l'atmosphère à un instant donné, c'est ce qu'on appelle l'état initial. À partir de cet état initial et les fameuses 6 équations de la météo, avec le calculateur, on est capable de calculer comment tout cet état va changer quelques minutes après. On a un nouvel état, qui est un état prévu. Et on reprend ça et on recommence, etc. Et on n'arrête pas. Pour faire une prévision à 24 heures, il nous faut 1 heure de temps de calcul à peu près. Et ensuite, alors on a ce qu'on appelle nous des champs de température, c'est-à-dire des cartes où on voit la température, comment elle évolue au niveau du sol, en altitude, à différents niveaux, le vent, l'humidité, etc. Et là, il va y avoir le rôle du prévisionniste, c'est notre travail. Ça va être d'abord de voir quel est le modèle qu'il faut prendre, parce que quel est le bon aujourd'hui, parce qu'on ne travaille pas qu'un seul modèle, on en a plusieurs. Et une fois qu'on a fait le choix, il va falloir traduire ces champs mathématiques en du langage clair. Alors on va prendre un exemple tout simple. Si tu es pilote, Elisa, je vais te dire peut-être que demain c'est une situation cavoque. Bon, pour toi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que pour un pilote, il peut voler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de danger météo.
Cavoque.
Maintenant, si tu es marin, Elisa, tu es en mer, tu veux savoir, ben on va t'annoncer le vent en nœud, parce que les marins, on parle en nœud. Par contre, tu es, Elisa, tu vas à l'école, donc nous, on va te parler du vent en kilomètre-heure. Donc, on traduit dans un langage particulier pour les différents utilisateurs de la météo. Et toi, par exemple, ce qui va t'intéresser, c'est de savoir, est-ce que le week-end prochain, ben, tu peux aller avec tes petites amies à l'extérieur parce qu'il fait beau ou il fait mauvais. Donc, nous, nous faisons ce travail-là. Et donc, on a tout un travail d'interprétation de la météo.
Interprétation, c'est donc un mélange de science et d'intuition, comme souvent dans les sciences, d'ailleurs.
C'est un mélange de beaucoup de science et beaucoup d'expérience. L'intuition, un petit peu, mais beaucoup d'expérience.
1 milliard d'opérations en une seconde. Ce qui fait qu'en 1 heure, à la météo, ils font 3600 fois 1 milliard d'opérations. Si vous voulez télécharger, réécouter cette émission, eh bien, venez sur le site des Petits Bateaux. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Elisabeth Collet, Eliane Girard, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert et Noël Bréham. Je vous laisse pour l'heure avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.